OK, c'est le micro 1 qui fait ça. Non, fait qu'il va falloir que tu changes de micro, Isa. Mettons, parle-toi.
Moi?
Oui.
Est-ce que ça marche?
Ben, ça marche super bien.
OK.
Là, t'entends-tu?
Attends.
Oui. Oh là là, Isa, ça se passera pas sur le micro 1. T'as changé là, au micro 2, hein, je pense?
Oui.
OK, ben là, tout va bien.
Yeah!
Yeah!
Fantastique!
Ben, c'est ça, tu sais. Ce qui se passe, c'est qu'on n'ouvre pas nos micros avant de commencer à parler, parce que sinon, ben, on parlerait par-dessus les pubs, tu sais. Fait que j'avais pas. Puis on fait pas de test aussi parce qu'on est en onde avec la musique avant de rentrer en onde. Fait que.
La joie du direct.
La joie du direct, effectivement, c'est ce genre de choses-là qui se passe. Fait que, ben, au moins là, tout le monde fonctionne, tout le monde s'entend bien. Puis pour vrai, je m'entends tellement bien. Je sais pas ce qui s'est passé dans la régie depuis que j'étais pas. Ça faisait vraiment des mois que j'entendais rien quand je parlais.
Oh,
puis, ouais. Puis là, écoute, là, j'ai commencé, j'ai dit bonsoir, puis je vais être comme tabarouette. Mais genre, j'entendais quelque chose, mais c'était comme lointain.
Écoute, tu te demandes si tu parles assez fort, puis t'es juste.
Ben, je me doutais, je regardais ce qui se passait, j'étais comme, c'est les écouteurs, ça, les écouteurs. Puis là, je sais pas, là, je pense pas qu'ils ont changé d'écouteurs, mais là, écoute, excuse-moi, je vis un moment, là, live, là, je suis comme, wow.
Ils ont peut-être switché des écouteurs parce que moi, je m'entends pas.
Ah, oh, ben, tabarouette. Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Peut-être que c'est toi qui es rendu avec les écouteurs de la régie.
Je sais même pas, mais en tout cas, pour les trois auditrices amateurs de son ici, on a une belle conversation qui est en branle. On aimerait avoir votre input sur.
Écoute.
Sur qu'est-ce qui a pu se passer, si vous avez des théories.
Ben, écoute.
Suivez-nous.
Et voilà, mais tout ça pour dire que, écoute, c'est choc, c'est fait avec beaucoup d'amour puis ben de la broche. Fait que là, on se retrouve. Alors, on a parlé, mais on s'est pas présenté, bien sûr. Elisabeth Simpson, je vous souhaite bonjour pour ce 214e épisode des Amazones et je suis en très bonne compagnie aujourd'hui. All fabulous queer friends.
Ah oui.
Merci à, donc, Marie-Ève d'être avec nous aujourd'hui.
Allô!
Allô! Je suis tellement contente que tu sois là parce que en fait, on n'aurait pas pu le faire si t'étais pas là, je pense. Parce que c'est comme si je pense à ça, je pense à toi.
Mais en fait, la première fois en avril que tu m'as invité aux Amazones, c'était pour ça.
Puis c'est ça qui se passe, hein? On a reporté. Fait que là, ça se passe à notre dernier épisode de la saison d'automne.
Petite anecdote, quand tu me l'as dit, je vais peut-être. Puis tout de suite, t'as hurlé à Marca comme « Marc, elle est in! » Bravo, parce que ce genre de choses que... Sortie de ma zone de confort, je suis pas sûre, on m'apporte quelque chose de nouveau, je monte des murs.
Ouais.
Puis après ça, j'y pense, t'as même pas laissé le temps aux murs de se construire, de faire, de voir le jardin.
Ah oui, mais c'était en fait à Marca, hein? Mm-hmm. Ah oui, c'est ça, on était dans la cuisine, Marca était dans le salon, puis j'ai dû hurler, Marca, c'est beau, Maria va être là! Puis...
Fait que bravo, t'as juste comme vargé dans le mur avant qu'ils se construisent, puis tout a bien été.
Puis je suis vraiment contente que tu aies été, que t'as été des nôtres toute la saison d'été, puis que là, tu l'as fini avec nous, c'est merveilleux. Yay. Et on continue donc le tour de table avec Isabelle Sasseville. Comment ça va, Isabelle?
Bonsoir, bonjour, c'est ce long, ça va bien, toi?
Ça va fatigué, mal dans le dos.
Et là là.
C'est parce que j'avais un rendez-vous cet après-midi, vois-tu. Puis là, j'ai regardé, c'était 26 minutes de marche. Puis j'ai dit, moi, le marché. Moi, tout habillé de noir vêtu, avec du gros matériel de denain, puis de gros chandail. Je vais le marché, moi, au Zénith, sur le boulevard Maurice-Duplessis. M'a fait ça. Fait que là, j'arrive, puis là, je marche, puis j'arrive au dit rendez-vous. Puis là, on me dit, ben on a tout fini. Mais tu sais, moi, j'avais rendez-vous là de comme 1 à 4. J'arrive à 1 et 5, puis là, tout est fini. Fait que je suis retournée, je suis revirée de bord. Fait que j'ai mangé 1 heure et quart au gros soleil.
Et moi, je peux dire en toute franchise que je relate beaucoup à ce que tu racontes, c'est le genre de choses qui m'arrivent. Et maintenant, j'invite tout le monde à essayer de deviner dans quelle tranche d'âge on se situe.
On n'a pas la même tranche d'âge.
On n'est-tu pas dans la même tranche d'âge?
Je pense pas.
T'es-tu sérieuse?
Je suis pas mal sûre qu'on n'est pas dans la même tranche d'âge.
Oh my God, je suis beaucoup plus vieille que je pensais dans ce cas.
Elisabeth est toujours plus jeune qu'on pense qu'elle est.
Ben, écoute, récemment, je fais signe à la personne donc, qui est dehors et qui a récupéré ses choses. Nous sommes arrivés au studio et il y avait énormément de choses. Puis là, j'étais comme, oh, j'espère que la personne le saura, que nous serons en onde.
On salue cette personne.
Mais cette personne semble avoir tout récupéré. Donc, tout va bien. Il se passe beaucoup de choses et on est trois TDAH?
Oui.
On est trois TDAH, donc il n'y a personne pour nous gérer. Fait que c'est ça qui se passe.
Ça va être une belle conversation.
Non, mais c'est ça. Récemment, là, je parlais avec du monde, puis c'est comme... Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, parce que là, je travaille avec des ados maintenant, mais là, j'étais comme, OK, ça, être la plus jeune du groupe, ça arrive tout le temps. Quelle âge tu penses j'ai?
Je sais pas. Moi, je pensais que c'était comme début trentaine, peut-être.
Mais mettons, laquelle, là? Trentaine?
De quoi, laquelle? Trentaine?
Non, mais genre,
moi, j'aurais dit comme 30, mettons.
OK. Ben non, t'es vraiment proche, là.
OK. Cool.
Fait que j'ai 29.
Bon, j'ai 36.
Non, c'est ça. Bon. Mais écoute.
Je suis dans le milieu.
Bon, mais quand même, on est à l'âge où des fois, quand on marche trop avec des choses sur nous, on a mal à des places.
Ben oui, mais moi, écoute...
Ça n'arrivait pas avant.
Moi, ça fait depuis que j'ai 17 ans que si je marche trop longtemps avec un sac à dos, j'ai des tendinites après.
Oh mon Dieu.
Fait que, écoute...
Ouais, voilà. Moi, j'ai des mauvaises chevilles, donc...
Et qu'on est magané.
Oui, cette conversation, j'ai bien intrigué du présentateur de choc.ca.
Mais si...
Mais trois personnes TDAH ensemble, pendant 10 minutes, ils vont parler de leur bobo.
Ça se peut?
Oui, possible. Mais on va parler de beaucoup d'autres choses aussi en sautant beaucoup du coq à l'âne. Ça, c'est aussi un problème.
Et ce que je trouve fascinant... Quand je parle avec mes amis TDAH, moi, j'adore avoir des conversations juste entre TDAH. C'est une de mes activités préférées parce que je trouve que c'est là qu'on... C'est comment je pourrais dire? C'est que là, il y a un chaos contrôlé, mais accepté, juste parfait. Ouvrir toutes plein de parenthèses, les fermer une après l'autre, même si ça prend 4 heures, on les aura toutes fermées, on va avoir vidé les questions. Puis c'est quelque chose que j'apprécie et que je sais que c'est difficile pour certaines personnes qui trouvent ça absolument incroyable comment on ferme pas nos parenthèses rapidement, mais...
Pour les gens qui ont un cerveau organisé autrement, c'est un cauchemar.
Oui, ben...
Mais pour nous, ça se passe bien. Parlant de parenthèses, d'ailleurs, à refermer, je sais que quand jasant avec Marie-Ève, tu as parlé d'un ça, donc le sujet de l'épisode d'aujourd'hui.
Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'on parlait de bobo.
Oui.
Là, j'allais justement dire que si on nous donnait le baiser de l'éternité et qu'on nous offrait donc de pouvoir vieillir sans souffrir, sans maladie, et de vivre éternellement, ben ça nous arriverait plus d'avoir des petites tendinites parce qu'on marche trop, parce que de toute façon on pourrait flotter, puis genre on aurait des familiers qui traîneraient nos sacs puis nos affaires, puis de toute façon on marcherait pas au zénith parce qu'on peut pas être au soleil. Fait que ce genre d'affaire là n'arriverait pas. Fait que tout ça pour dire
on pourrait voler possiblement.
Possiblement, dépendamment des pouvoir qu'on a.
Moi, dans mon cas, je fais juste penser à le diabète. Quel diabète?
Ah, ben, c'est ça.
Ça serait réglé pour toujours, mon Dieu Seigneur.
Mais ça, oui, oui, mais écoute, là, j'étais en train de penser à comme, mettons, un vampire. OK. Mettons un vampire, là, qui suce le sang d'un diabétique.
Mais j'étais exactement...
Oui, il fait ça, Sugar Rush, moi aussi, ça m'intéresse.
parce que c'est dans la pop culture de vampires, à chaque fois qu'on fait comme, ah, ils ont bu le sang de quelqu'un de sous, quelqu'un de drogué, ben ils finissent sous ou drogué. Fait que je suis juste... quelqu'un diabétique.
Ben oui, puis le classique, c'est la personne a une maladie, le sang est souillé aussi, puis il est comme pas bon, là. Fait en fait, peut-être que ton diabète te rendrait, mettons, peut-être, mettons comme, tu sais, tu sens quelque chose dans ton frigidaire, puis tu fais, ah non, je le file pas, je le prendrai pas. Ben peut-être que ça te protège, en fait.
Ou au contraire, comme avec les maringouins l'été, par exemple, ils feraient, oh, wow. Parce que sérieusement, j'attire plus les maringouins quand mon taux de sucre est trop haut.
Mais c'est pour ça qu'il faut que tu traînes avec le club des mosquitoses qu'on voit dans la saison 2. Ooh. Mais là, on va revenir à notre sujet. Donc, on parle de What Window et de Shadows, donc une série comique qui est diffusée sur le poste FX, aussi sur Hulu ou sur Disney+, donc ou sur les internets de la façon la plus illégale que vous le souhaitez.
Si
tout ça est possible.
Débrouillard.
Si vous êtes débrouillard et que vous acceptez de fermer énormément de pop-up.
oui, et de voir des choses très louches sur le coin de l'œil.
Beaucoup d'animés avec des gros tontons.
beaucoup d'annonces de crypto-monnaie aussi.
Ah, oh, si, c'est vrai, c'est la nouvelle affaire.
Oui. Écoute-moi.
Des pop-up de crypto.
Avant, c'était beaucoup le casino que je voyais. Là, c'est vraiment, tu sais, comme mettons des apps de jeux. Mais là, c'est beaucoup de crypto-monnaie. Mais qu'à cela ne tienne, malgré le fait qu'il y a un épisode de la saison 3 qui se passe à Atlantic City. Retournons à nos moutons. Donc, je disais que c'est une série donc, qui a été diffusée originalement donc, sur le site FX, qui a beaucoup de séries fantastiques, horreur riches et tout ça. Là. C'est entre autres là qu'on a vu apparaître la merveilleuse série American Horror Story.
Mm-hmm. Légion aussi, si vous l'avez vu.
C'était... J'ai pas vu Légion.
Non, c'était très bon. Je l'ai écouté quand c'est sorti, puis personne d'autre l'avait écouté parce que c'était dur à trouver.
Ouais, mais juste on est débrouillards.
Fait que maintenant, c'est sur Disney+, puis j'invite vraiment les gens à l'écouter. La saison 1 est magnifique.
Il y a combien de saisons?
Il y en a 3. Puis c'est fini.
Fait que là, ce que tu dis, c'est qu'on pourrait écouter ça dans le prochain, comme dans les prochains mois, puis s'en reparler, même si ce ne sera pas d'actualité, ce ne sera pas grave, ça te ferait plaisir.
Oui.
OK, c'est beau. C'est noté. Revenons. Écoute, ça fait juste 10 minutes qu'on a commencé. Revenons à notre affaire. Donc, la série qui a débuté en 2019 et qui en est en ce moment, donc, à la diffusion de sa 4e saison, met en vedette, donc, Guillermo, Nadja, Laszlo et Nandor. Donc, 3 vampires et Guillermo, donc, leur familier.
N'oublie pas Colin.
Et Colin, merci.
Oh, Colin.
C'est parce qu'il n'est pas sa photo, mais c'est parce qu'en fait, il est là, mais il est en bébé. Mais ça, on y arrivera.
Oui. La saison dont on ne parle pas.
Saison qu'on ne peut pas parler parce que, Isabelle et moi, nous l'écoutons sur Disney+, je crois.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est la saison 3 qui vient de sortir. On va donc éviter de parler de la saison 4 qui n'est pas terminée. Mais qu'à cela ne tienne, ça veut dire qu'on pourra se revoir pour parler plus en détail donc de la saison 4 en soi, faire des liens avec ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui notre épisode 0 pour un peu mettre les balais sur comment on a trouvé la série, faire des liens avec le film aussi et faire des liens avec plein d'autres choses de la pop culture. Mais j'y arrive. tout ça pour dire que Nandor, Laszlo et Nadja sont 3 vampires qui chillent à Staten Island, donc mais qui proviennent de majoritairement de la grande Europe. Puis je pense que Nandor, il vient de où il y aurait
Orient, je pense.
Ben en fait, je pense que si je me rappelle bien, je l'avais googlé un moment donné. Ah, ça va me gosser, je vais le googler après. Il me semble que c'est ce qui aujourd'hui serait plus l'Irak, mais je vais aller checker ça en plus en détail pour El Canador, ou est-ce que c'est... je le prononce sûrement pas comme il faut. Mais tout ça pour dire que ces 3 vampires-là sont plus ou moins vieux. Donc, justement, Nandor, qui est vieux de comme plusieurs centaines d'années. Mais il y aurait l'âge, à peu près un âge similaire à Nadja, parce que c'est lui qui a wipé son village qu'on apprend. Fait qu'I guess qu'ils sont comme...
Oui, à peu près en même temps.
Mais pas dans la même... Ils viennent pas du tout du même milieu. Là, Nadja, justement, qu'on fait beaucoup de blagues sur le fait qu'elle vient d'un espèce de village ou comme des anecdotes qui ont pas de bon sens, où tout le monde, buvait le lait de la chèvre, mais comme la même chèvre de je sais pas combien de temps. Puis de comme... Tu sais, des histoires de vraiment d'ultra... pauvreté, misère qui a comme aucun sens tellement c'est caricatural.
Il a brûlé des ânes pour survivre.
Ah, c'est ça!
Oui.
C'est ça, il brûlait.
Il brûlait de l'âne, puis après ça, l'âne mourait, puis il faisait brûler l'âne pour rester au chaud.
C'est ça.
Des affaires qui n'ont pas de sens.
Alors que Nandor est un seigneur avec plusieurs femmes et
Ouais, vraiment, là, l'image du conquérant qui avait son harem, puis qui était vraiment là, comme, et qui l'a maintenant... chill dans les gyms de l'État de New York, là, qu'est-ce que je te dise. Puis, c'est ça. Et Laszlo, donc, qui est un vampire anglais, britannique.
Qui a été transformé par Nadja, en fait.
Oui, exactement.
C'est elle qui l'a viré.
Effectivement, c'est elle qui l'a fait sauter la clôture.
De la vie.
On ne sait pas exactement de quelle classe sociale venait Laszlo, right?
En fait, on l'apprend dans la saison 3 quand il décide qu'il ne veut pas aller en Angleterre avec elle parce que lui, son père, son arrière-grand-père, etc., etc., toute sa lignée, en fait, faisait partie d'un club select d'aristocrates. Donc, c'est quelqu'un qui avait de l'argent et du statut social. Mm-hmm.
Ça a du sens, effectivement. Puis Guillermo, donc, qui est leur familier depuis 11 ans, au moment où est-ce que la saison 3 avait lieu.
C'est le 10e anniversaire à la première saison.
C'est ça. Fait que là, mettons l'équivalent de 11-12 ans maintenant, où est-ce qu'on est rendu, que c'est leur familier. Puis qu'on comprend un peu la dynamique, que quand quelqu'un devient familier d'un groupe de vampires, c'est un peu dans l'objectif de dire, oui, mais vous allez me transformer en vampire. Promesse qui ne se concrétise à peu près jamais.
Mm-hmm. Pauvre Guillermo.
Pauvre Guillermo.
Qui met beaucoup d'espoir dans ces gens-là.
Mais qu'on apprend... à la fin de la saison 1, que Guillermo, en fait, est un descendant direct de Van Helsing, ce qui n'a aucun hostie de rapport, parce que, tu sais, je veux dire, Van Helsing est un personnage de Bram Stoker, là, il n'a pas existé, là, fait que, whatever. Mais tu sais, pour dire qu'il serait, donc, lui aussi, il aurait lui aussi des pouvoirs un peu surnaturels, qui est donc les pouvoirs reliés au fait qu'il est vraiment très talentueux pour tuer des vampires out of the blue. Là. Il n'y a même pas à se forcer.
Ce qui rentre en contradiction avec tout son désir de faire partie de ce groupe-là, ce qui est absolument délicieux.
Ça donne énormément de charme au personnage. Mais c'est justement une chose qui m'intrigue beaucoup, vu qu'au début, Guillermo n'était pas censé être un personnage important. C'était juste un petit personnage dans le pilote. Puis les créateurs ont vraiment beaucoup aimé Harvey Gullian, qui est l'acteur.
Qui est fantastique.
Donc, ils ont continué à lui donner du stock. Lui, il a continué à répondre de manière merveilleuse au matériel qui lui était donné.
Puis là, maintenant, il ne pourrait pas passer, il ne pourrait pas quitter le groupe. Là,
Guillermo,
comme...
il est le cœur de la saison.
On serait dévasté s'il partait. Puis, en fait, c'est ça, dans le fond, on n'a jamais sous-estimé la capacité d'un acteur à transcender quelque chose. Puis, surtout, j'ai l'impression que c'est... Bon, on va reparler un peu du fait que, bon, c'est inspiré quand même d'un film. Puis, comment il y a une collégialité dans le writing de cette histoire. Mais je pense que c'est aussi cette collégialité qui fait que les writers ont fait, ben non, on peut pas... reléguer ce personnage au second plan alors qu'il est délicieux, puis il y a quelque chose de très organique
effectivement
dans ce genre d'écriture.
Parce que si on finit, mettons, les habitants du manoir, là, il y a effectivement Colin Robinson, un vampire d'énergie, donc qui se nourrit de l'énergie en faisant du cringe, en faisant du malaise. Donc c'est comme si il a l'air vraiment tout droit sorti. En plus, ben si vous connaissez pas la série, ben on va spoiler les trois premières saisons ou pas au complet là, mais c'est ça. Mais tu sais, Colin Robinson a vraiment l'énergie d'un personnage de The Office là. C'est vraiment pas juste à cause du fait qu'il travaille dans des bureaux, mais tu sais, il dégage de quoi? De comme...
On a tous une personne comme ça à notre emploi.
En fait, c'est un mash-up de toutes nos pires expériences de travail avec des collègues qui sont nécessairement méchants, qui sont juste rochants.
J'ai eu réellement des gens exactement comme ça à mes emplois, que t'es juste vidé après qu'ils partent.
Mais pour vrai, en fait, moi aussi, mais vu que j'ai moins fait de travail de bureau... Je te dirais que c'est plus, mettons, tu sais, la vampire d'énergie de la saison 1. Parce que lui, il se nourrit beaucoup de, tu sais, du fait que les gens s'ennuient quand il parle ou le trouvent rochant ou se frustrent après lui parce qu'il est comme pas, il est awkward puis tout ça. Alors qu'elle, elle se nourrit en faisant comme un peu plus du, tu sais, ce que j'entendais plus souvent quand j'étais plus jeune, de, tu sais, genre, les vampires d'énergie, c'était beaucoup les gens qui justement, tu sais, comme, en demandait beaucoup en termes de soutien émotif.
Ben, dans le langage de la série, ils font une distinction en fait entre Colin, qui est un energy vampire, puis cette fille-là qui est une emotional vampire.
Ah, voilà, voilà.
Fait que c'est là la petite nuance. Ça a l'air d'être le même type de vampirisme, sauf que elle, ça vient toujours de l'émotion qu'elle va susciter chez les gens, généralement de la pitié, parce qu'il arrive les pires motadites affaires qui peuvent arriver à des êtres humains back-à-back.
Mm-hmm.
Puis c'est là qu'elle va attirer soit de la sympathie, soit du malaise de la part des gens, de la pitié, des sentiments laids là, de gens qui ne savent pas quoi faire quand quelqu'un
ben a c'est
des
ça.
Espoirs.
On a donné beaucoup de détails sur ce personnage-là qui est là juste un épisode, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que cette belle trollée-là de personnes ultra attachantes, ultra divertissantes, ultra queer à l'os, là, mais on va y revenir. Donc, ce sont en fait dans j'ai parlé de The Office, mais qui sont vraiment dans ce format-là du documentaire qu'on a vu avec The Office, avec Modern Family, puis tout ça, et qui, dans le fond, était ce qui avait été pris par German Clement puis Taika Waititi quand ils ont fait What We Know the Shadows, le film.
Oui.
Qui a été un jour disponible sur Netflix, aujourd'hui disponible sur votre débrouillardise, ouais. Mais qui, dans le fond, était exactement un peu le même concept, mais avec d'autres vampires, avec d'autres personnalités qui se passaient en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
En Nouvelle-Zélande. Les personnes qui n'ont pas vu le film, qui ont vu la série, puis qui n'ont pas vu le film, vraiment, débrouillardisez-vous pour voir le film. Ben, ça vaut absolument le détour.
Ça vaut le détour, c'est très bon, mais la série, elle va évidemment beaucoup plus loin dans le lore, dans la façon dont ils rajoutent des couches à l'univers.
Il y a aussi beaucoup plus de budget à la série.
Ah, mais là, ça paraît.
Le film, c'est tout. Dans le film, à chaque fois qu'il y a des collages d'images, tout ça, c'est Taika et German qui comme, ne savaient pas comment utiliser Photoshop, qui essayaient de faire des choses parce qu'il n'y avait pas de budget. Là.
Mm-hmm.
Complètement. Mais l'essence du film reste quand même super intéressante. Puis,
oui, le, tout à fait.
Juste pour le plaisir de voir le flash de départ. T'sais. Ben, l'idée de départ de « on va faire un mockumentary sur des vampires qui vivent en collégialité dans une maison. » Puis,
Taika jouer un petit dandy de l'Angleterre.
Ah oui, il est fabuleux, pas vrai.
Puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est... Mais moi, l'affaire, c'est que voir des films cheap, ça me dérange pas. Puis, tu sais, comme, mettons, justement, tu sais, dans des films de, comme, de début, puis whatever, là, tu sais, comme, c'est comme, gars, on va le faire parce qu'on va le faire, puis ça va être de même. Puis ça me faisait penser un peu à Cannibal the Musical, tu sais, de Trey Parker, Matt Stone, que, tu sais, c'est pas écoutable aujourd'hui. Tu sais, ça pourrait pas se faire aujourd'hui, ce film-là, parce que, ben, c'est bon, mais... Tu fais un meilleur film avec ton iPhone aujourd'hui.
Oui,
t'sais.
Mais il faut chercher d'autres qualités, en fait.
C'est ça.
Que l'exécution technique.
Mais c'est ça, mais quand
que l'écriture est importante.
Mais quand tu te reportes à la télé puis au cinéma de ces années-là, tu sais, ça a sorti quoi en 90-12, là, dans ce coin-là, là, mettons.
What
là.
We Do in the Shadows.
Non, Cannibal the Musical.
Ah,
là.
Dieu, oui, dans ces années-là, je
pense. Mais tu sais, c'est ça, ils ont fait ça à l'université. Là. C'est un film d'université en fin 80, début 90. Là. Fait que c'est fait tout croche. Là. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. Puis la même chose avec What We Do in the Shadows. Là, c'est comme, il y avait déjà du talent de réalisation quand même.
C'était le troisième film de Taika aussi. Hein, donc.
C'est un film qui commence déjà à dater. Donc, c'est ça.
Mais c'est fait avec, comme tu dis, énormément d'amour. Puis déjà, on installait beaucoup de notions, tu sais, comme le fait que, tu sais, le fait que c'était des vampires, mais que, tu sais, comme, vu qu'ils étaient un peu dans la modernité, il y avait des petits éléments, des fois un peu anachroniques, puis d'adaptation, dans le fond, de mésadaptation à la réalité d'aujourd'hui, puis un peu le refus de la modernité aussi qui se faisait des fois par rapport à ça. Ce qu'on voit un peu, mais... ce qui est comme aléatoire, j'ai l'impression, dans la série. Tu sais, comme, mettons, ils vont vraiment avoir des espèces de notions parfois très, très, très conservatrices ou du moins très, très, très anachroniques sur des valeurs ou peu importe. Mais ils vont vraiment souligner le fait que, comme, arrête de m'envoyer des corbeaux, j'ai le téléphone, tu sais.
Ouais. Je pense que ça joue aussi avec qui ils vivent. Dans le film, ils n'ont pas de familier.
Ouais.
Ils jouent même sur le fait que... le personnage de Taika, que j'oublie le nom pour l'instant, a abandonné son familier en Angleterre, puis quand il revient en contact avec, comme, fait que vous allez me transformer, puis il est comme, je suis plus capable de... Bye! Mais lorsqu'il rencontre l'ami humain du nouveau vampire, qu'ils sont tous en amour avec.
Ah oui, comment il s'appelle lui déjà? J'ai oublié son nom.
J'ai tout oublié. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu le film parce qu'il est plus sur Netflix. C'est comme. Ouais. Je suis trop paresseuse pour chercher. Là, il commence à découvrir la technologie avec lui, alors que dans la série télé, ils ont Guillermo et Colin Robinson qui sont très technologiques.
Ce que je trouve intéressant dans la manière dont ils ont traité les vampires, justement, il y a certaines choses justement technologiques qu'ils embrassent, d'autres qu'ils rejettent, justement des vues excessivement conservatrices sur plein de trucs qu'ils ont visiblement gardé de leur existence humaine il y a plusieurs centaines d'années. Je trouve que c'est une façon habile de traiter de justement la résistance au changement dont nous, humains, on est victimes aussi c'est par vrai. La force des choses. On a tous des grands-parents à qui il faut qu'on explique des affaires, là.
Mais
puis qui veulent pas nécessairement qu'on leur explique ces affaires-là parce qu'ils veulent pas apprendre. Ça fait trop longtemps, ils ont trop d'affaires déjà dans leur tête qu'il faut qu'ils retiennent pour juste fonctionner dans un monde moderne qui va très vite. Ils veulent plus. Puis même nous, comme adultes qui avançons, éventuellement, on a aussi des résistances par rapport à certaines choses. Puis c'est quand même cool de pouvoir traiter de ce sujet-là en l'exagérant, bien sûr, parce que des notions qui existaient il y a 300 ans, que des 400 ans, 500 ans, que des personnes veulent quand même conserver, c'est quand même absurde. Ça n'existe pas. Donc.
Puis que vraisemblablement.
Humain, le changement, excuse-moi. Elisabeth.
Non, mais vas-y, Maria.
Ça m'a fait penser à Nandor qui réalise éventuellement qu'il a oublié sa langue natale. Et quand il se voit sa version fantôme du passé,
il ne comprend pas.
Il est capable de communiquer avec, il a oublié le langage.
Duel Calatar. Mais non, c'est ça, c'est parce que j'ai fait une petite recherche, là, puis le personnage de Taika Waititi s'appelle Viago, et le gars que tout le monde aime s'appelle Stu.
Oui, Stu.
Donc, si je me trompe pas, là, c'est parce que c'est un peu loin dans ma tête, mais c'est ça, je pense que c'est ça, c'est Stu que tout le monde aime, pour une raison qui nous échappe, mais tout le monde le trouve juste trop cool.
Et petite parenthèse, on a parlé de Our Flag Means Death. L'autre
jour, il y a quelques semaines,
la tête de DDH, tout est l'autre jour dans ma tête.
Oui.
Le alpha des loups-garous dans le film,
oui,
c'est Rhys Darby, c'est-à-dire Steed Bonnet.
Oh mon Dieu, c'est vrai, tout est dans tout.
Ah, attends, je le trouve pas. Comment que tu dis?
Le chef des loups-garous dans le film,
oui,
c'est Steed Bonnet, c'est celui qui joue Steed Bonnet.
Attends, mais comment tu dis qu'il s'appelle?
Rhys Darby?
Oui.
Rhys Darby, qui joue Anton, le chef des loups-garous.
We are werewolf, not swearwolf.
Werewolf, mais une des meilleures répliques de l'histoire. C'est difficile de tout parler de la série parce que c'est quand même très, 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 très riche. Il y a des épisodes, je crois, qui sont absolument iconiques, cultes, qui vont... Puis c'est une série aussi, je trouve, qui évolue bien, tu sais, parce que ça pourrait être un concept qui techniquement pourrait s'essouffler très rapidement, mais à chaque série, à chaque saison, j'ai l'impression qu'ils rajoutent une couche, oui, de budget, mais aussi de nuances, puis ils vont aller aborder certains éléments vampiriques qui sont super importants, mais que tu vois, comme quand je regardais White Window de Shadows, je voyais beaucoup des références aux vampires des années 80, puis je voyais beaucoup aussi des références beaucoup plus proches de vampires de mascarade, ce qui revient aussi beaucoup dans le début de What We Know de Shadows, la série. Je peux-tu dire What We Do pour le reste, parce que là c'est comme ça un peu long. Mais c'est ça, c'est que alors que plus ça va, plus je trouvais qu'il y avait beaucoup de références à des éléments clés d'Anne Rice qui arrivaient, mais qui a toujours été un peu là, mais qui revenait surtout à partir de la saison 3-4, je te dirais. Le théâtre des vampires, c'est un bon exemple. C'est une invention de... Ben, peut-être quelqu'un va peut-être me dire « Non, c'était vraiment un thing. » Mais tu sais, comme Anne Rice a écrit sur le théâtre des vampires dès entretien, là, tu sais, fait que it was a thing. Pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est dans le film, quand Antonio Banderas y arrive, ils sont au théâtre des vampires. Antonio Banderas, on se rappelle, qui joue Armand, un vampire grec de 14 ans. Mais ça, on s'en fout, parce que comme... whatever. De toute façon, tout le casting de ce film-là avait pas de crise de rapport, là, mais ça, c'est une autre histoire.
Il y a juste Brad Pitt qui est un très bon Louis.
Ouais. Ouais. Il était trop vieux.
Ouais, ben tout le monde.
Mais... Tout le monde est trop vieux, là, mais ouais.
Ça aurait été bizarre s'il avait casté des gens du bon âge. Genre Armand à...
Armand à 14 ans. Mais il fait rien
ça
dans le film.
Peut-être juste c'était un bon Twilight aussi, on le sait pas.
Non, mais il aurait pu prendre un acteur de 20 ans, là, je sais pas trop. Là. Ce qu'ils ont fait pour La Reine des Damnés, là, ils ont casté Armand, puis là, ça avait l'air d'un kid de 15-14 ans, blond. C'était...
Je me souviens plus d'Armand.
Peut-être les références...
Anne Rice, en fait, c'est ça, parce que dans le fond, si on se rappelle bien aussi, je pense que dans la série, il faut qu'il soit invité pour rentrer dans une maison privée, ouais. Ce qui est une règle qu'on a vue, entre autres, dans Buffy, puis qu'on a vue, entre autres, dans The Lost Boys, en fait, qui revenait, donc une règle qui existait, qui était pas dans Anne Rice, puis qui sont pas dans Vampire de Mascarade. Donc, c'est ça, ils vont un peu piger... Un peu partout.
Et ces vampires-là, dans What We Do, sont excessivement sexuels, ce que les vampires de Anne Rice ne faisaient pas parce qu'ils
fonctionnent. Mais voyons donc! Mais non, je ne suis pas d'accord avec la lecture de ce que tu viens de dire. T'as-tu lu Anne Rice?
Oui, il y a un moment dans le voleur de corps,
ouais.
Où est-ce que Lestat tombe dans un corps d'un humain et il a une érection et il n'est pas capable de se contrôler parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a pas eu. Parce qu'il n'y a pas de
flot dans le sens. Ah, mais OK.
Ils sont sensuels, mais ils sont pas sexuels.
Mais c'est parce qu'ils passent leur temps à se caresser, puis à se licher, puis tout ça, parce que c'est comme trop hot,
ouais,
mais...
Ouais, ils sont très sensuels.
Mais c'est ça, mais il n'y a pas de... OK, je comprends ce que tu veux dire.
Bon, moi, confession, la seule chose que j'ai lue de Anne Rice, c'est Les Aventures de la Belle au bois dormant, 1, 2, 3, puis je vais vous dire, c'est sexuel en tabarouette.
Non, oui, mais moi, j'ai... Les Sorcières de Mayfair, puis c'est excessif.
Ben, j'ai juste lu le premier tome, puis rendu au deuxième, je me suis tannée, parce que j'étais comme... Je suis tannée, là. C'était comme...
J'avais 18 ans, moi, j'explorais beaucoup de choses, mais je te dirais que je suis rendue beaucoup plus vannée maintenant.
Mais moi, j'en
c'était très, très intense.
Mais moi, j'en avais 14, puis au deuxième, j'étais comme... Je suis même plus impressionnée.
Non, c'est clair.
Fait que bref, tout ça pour dire que non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que dans ma tête à moi, c'était beaucoup. En fait, c'est plus l'aspect de la fluidité. C'est l'aspect que le corps d'un vampire, tu sais, un vampire c'est un vampire, ça a pas de genre, tu sais, rendu là, tu sais, comme dans Anne Rice, là, je veux dire, tu sais, dans le sens que comme ils se trouvent tous beaux, ils se trouvent tous sensuels, ils ont tous envie de se toucher, puis c'est un peu au-delà de la notion de tu sais, l'attirance est vraiment traitée comme...
Dans What We Do in the Shadow, il y a quand même tout le temps quelque chose de sous-entendu comme quoi, quand t'es un vampire depuis plusieurs centaines d'années, à un moment donné...
Tes barrières
le
tombent.
Le missionnaire avec ton partenaire, ça devient plus nice.
Ouais, c'est ça.
Puis je trouve que c'est... Ben, c'est le fun pour raccrocher les gens à quelque chose de concret parce que je pense que l'affaire de... justement cette sensualité ou cette sexualité qui vient juste avec l'état d'être vampire, les gens peuvent, le monde ordinaire, les humains, peuvent pas tous s'identifier à ça. Mais le fait de le rationaliser sur quelque chose de « Hey, ça fait 500 ans que ça se passe, puis on fourre encore, mais là, faut qu'on se donne des libertés d'essayer des affaires parce que 500 ans de la même affaire, c'est plate en mots, t'as dit.
Ouais.
Il y a quelque chose de... Juste la durée dans le temps fait que ces gens-là peuvent pas vivre comme nous.
Mais
leur
non, mais...
sexualité puis leur sensualité.
Non, c'est clair parce que, tu sais, puis un élément de la saison 3 aussi, tu sais, l'élément de se mettre en dormance perpétuelle parce que l'idée de l'immortalité est trop effrayante, qui est un concept qu'on voit dans Anne Rice à partir de Lestat, je dirais, parce que c'est Lestat qui se réveille le début du livre, qui est le deuxième. C'est quand Lestat se réveille d'un sommeil qui a fait de comme pas grand chose, là, genre 100 ans, je pense, ou genre 120 ans. Là. Mais tu sais, il y a du monde qui ont dormi longtemps, parce que justement, c'est trop souffrant. C'est juste trop souffrant l'éternité.
De vivre, c'est insupportable.
Fait que leur truc, c'est ça, c'est d'aller faire des petits dodos, puis de quand ils sont prêts, ben ils reviennent, puis ils font un petit bout, puis après ils retournent se coucher. Parce que sinon, c'est trop épouvantable. Puis c'est ça que Nandor essaie de faire, mais qui peut pas faire parce que ben Colin Robinson va mourir. Fait que ça va comme redonner un... Hey, ça, là...
Il meurt pas tant, là.
Non, mais il meurt pas tant, là, mais tu sais, quand même, là, comme quand il a passé son bras à travers sa tête...
Ça, c'était franchement bien exécuté.
Oui.
Moi, comme amateur de plus en plus de tout ce qui est effets spéciaux, gore, etc., c'était bien exécuté. Vraiment, bravo. Bien surprenant. Bien surprenant. C'est ça.
Mais surtout, si tu t'habitues à la convention qui n'ont pas tant de budget, puis que plus ça va, plus ils en ont du budget, ouais. Ben, tu vas être surpris.
Des fois, il y a des trucs qui font que tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas de budget, mais ils l'ont utilisé de manière tellement bonne, c'est tellement creepy et laid, que ça fonctionne avec l'ambiance du show, que ça soit
ouais.
Même beau.
Tu parles-tu du Sire?
C'était quoi ça déjà?
Le Sire, c'est le dude qui est comme le premier vampire, puis que si tu le tues, tu toutes les vampires. Ce qu'il y avait dans The Lost Boys. Une genre de gargouille un peu ish là.
Moi j'aime ça honnêtement, les personnages secondaires sont particulièrement le fun aussi dans cette série là parce que t'as de Sire, t'as le vampire de saison 1 qui ont juste brûlé.
Le Baron.
Qui ont juste brûlé, puis là, il revient comme en moitié de corps à saison 3. C'est fantastique. Le chien de l'enfer. Tout ça a aucun sens.
Le chapeau.
J'ai tellement été... Le chapeau des sorcières! Oh! Ça, c'était extraordinaire.
Laszlo et son maudit chapeau.
Cursed. Ah, oh, ça n'a pas de sens.
Ah, c'est...
Ça n'a pas de sens. Mais je veux dire... Tous ces éléments-là. Puis là, nous autres, on parle de ça, puis les gens qui ont vu, écouté et tout, font juste « Ah oui. » C'est ça, « What we do in the shadows oui, ». C'est juste des moments qu'on réminisce entre personnes qui ont vu la série, puis qu'on fait « Tout était bon ». On pourrait passer des heures à tout pitcher.
Ouais. Chaque épisode a leur petit côté. C'est comme, chaque épisode se tient bien par
soi-même,
avec des personnages secondaires qui apparaissent juste un ou deux épisodes et tout ça. Mais il y a quand même un tout à chaque saison qui se répond bien. Comme l'épisode dans saison 2 avec Mark Hamill.
Oh, oui.
Laszlo quitte, s'en va dans le Montana, puis s'en vient comme Jackie Daytona.
C'est fantastique.
Il fait juste avoir un cure-dent dans la bouche, puis personne ne le reconnaît. Puis il devient comme une figure importante dans ce petit village.
Ben c'est quelqu'un qui est...
Une figure importante pour...
C'est le surprenant, tu sais.
Ouais.
C'est le survenant, excuse-moi.
Oui, puis mais qui prend sous son aile une équipe
de volleyball
d'école secondaire ou machin. En tout cas, ça n'a aucun sens.
Ben, plus, mettons, collégiale.
Peut-être, ouais. Oui.
Parce que les filles travaillent au bord avec lui.
Ben c'est le début université probablement aux États-Unis, là, si on veut faire un équivalent.
Mais c'est, bon. Ben c'est ça, tu sais.
Ouais. C'est complètement capoté.
Puis tous les caméos sont exceptionnels, c'est sûr. Mais tu sais, comme si on pense, mettons, au procès où est-ce qu'il y avait même Wesley Snipes qui était en vidéoconférence.
Oui, moi, j'ai comme... Des vampires, c'est Tita Swinson.
Je peux-tu juste comme...
Oui.
Parenthèse que Tilda Swinton s'est auto-référencée dans un film de vampire qu'elle a fait.
Oui, tout à fait.
C'est fantastique, elle a joué dans Lovers Left Alive, puis
c'était
le même vampire.
Mais c'était que ça, tu sais, Evan Rachel Wood qui jouait dans True Blood,
oui.
Voyons, puis...
La petite phrase comme, oh Rob n'est pas là, non, Rob, il aime mieux ne pas en parler, comme Robert Pattinson qui aime mieux oublier le fait qu'il a fait Twilight.
C'est fantastique. Mais tout...
Brad Pitt était trop occupé.
Probable.
C'est ça.
Il va-tu aller dans saison 5, on ne sait pas. T'sais. Mais
c'est ça qui est intéressant, parce que Tilda Swinton est là, mais elle n'est pas en Tilda Swinton. Elle est dans son personnage de Only Lovers Left Alive.
Mais elle s'appelle quand même Tilda.
C'est ça qui est un peu bizarre, parce que tu as un personnage aussi dans la saison 4 dont j'ai oublié le nom, mais qui est un acteur irlandais qui a joué, entre autres, dans Grounded for Life. Puis là, il est comme, ben, je suis un vampire, puis j'ai des talents de peinture.
Oui, il
comme...
explique pourquoi, comment ça arrive, puis tout, puis c'est l'acteur, il s'auto-joue, mais il nous annonce que c'est un vampire.
C'est ça.
C'est fantastique.
Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de couches de lecture de tout ça. Puis c'est ça qui est un peu, tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes des séries comme, là, ça n'a pas l'air d'avoir rapport, mais vous allez comprendre où je m'en vais avec ça, tu sais, avec, mettons, une série comme Entourage, où il y a des acteurs, des vrais acteurs qui jouent des personnages, puis t'as des acteurs qui se jouent eux-mêmes. Et là, ça devient très, très, très bizarre, parce que là, ça veut dire que What We Do se passe dans notre univers.
Oui, ça campe beaucoup l'univers de What We Do in the Shadows dans le monde réel, actuel, dans lequel nous, on vit.
Puis dans notre... dimension, dans notre univers, là, vraiment, là, tu sais, comme qu'il n'y a pas tant de différence, là, tu sais, mis à part qu'il y a les acteurs qui sont des acteurs connus, là, quand même, il y a, ben, pas toutes, là, mais il y a certains acteurs qui sont assez populaire, assez connu, même ceux qui ne font comme Mark Hamill puis tout ça, mais
la fille dont Colin Robinson tombe amoureux là dans saison 1, c'est une fille de SNL, de Guide.
Ouais.
C'est aussi une fille de SNL. Mais, d'ailleurs, c'est Allison Jones aussi qui a fait le casting. Comme moi, je vais toujours souvenir sur Allison Jones là, comme on avait fait l'épisode sur Our Flag Means Death, puis c'était la même affaire, c'est Allison Jones qui a fait le casting, c'est une reine. Mm-hmm. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Juste Laszlo, Matt Berry, ultra populaire en Angleterre. Là.
Ben oui, The IT Guy, The IT Crowd, dis-je.
Oui, oui. Aussi. Ouais, de tous ces trucs personnels aussi qu'il faisait. Ah, oh, il est toujours lourd. Ça, c'est la chose que j'avais peur, parce que ses rôles de ses projets à lui, il joue beaucoup sur le awkward. Il va juste une petite coche trop loin pour moi.
Okay.
Et j'ai de la misère à les écouter. C'est toujours comme un petit peu trop awkward pour moi. Avec Laszlo, c'est le parfait milieu.
C'est le parfait spot que t'es comme, c'est drôle, c'est un petit peu bizarre, un peu awkward, mais pas trop pour comme être malaisant.
C'est où c'est lui qui jouait le prince slash cochon dans Disenchantment?
Tout à fait. J'avais reconnu sa voix tout de suite.
C'est vrai.
Puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, je trouve aussi que tu sais la série, une des raisons, je crois, pourquoi elle ne s'épuise pas, c'est que puis c'est quand même assez commun là dans ce genre de séries là qui sont comme justement des séries sitcom, humour et tout ça. Je pense qu'une des raisons pourquoi ça ne s'épuise pas, c'est qu'on a parti sur des personnages très 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 forts, que maintenant que les personnages sont forts, on va travailler donc à caricaturer certains de leurs traits, mais on leur donne aussi une énorme profondeur. Je veux dire, on s'entend que Nadja puis Laszlo était zéro gentil là, la première saison. Là, il était pas attachant. Il était drôle, mais il était pas comme... T'sais, tu faisais pas des... T'sais, quand ils écoutaient. Alors que la saison 3, c'est comme un heureux mélange entre... Ils font les pires choses qu'ils pouvaient faire des fois... Et ils font aussi les choses les plus humaines et les plus cœur sur la main qu'ils pouvaient faire.
Parce que où ils sont rendus, ils peuvent explorer d'autres relations, comme dans la saison 3, Colin et Laszlo ensemble, comme duo que je n'aurais jamais imaginé.
Ils sont fantastiques, mais en fait, ensemble.
Fantastique.
Puis il y a aussi le fait que, étant donné que justement les personnages sont forts et bien construits, au fur et à mesure que ça avance, on les voit de plus en plus dans des états. Au lieu de les voir juste dans l'action. Surtout les premières saisons, on va voir des personnages qui ont des états émotifs, mais si peu quand on veut accrocher. C'est souvent les premières saisons qui sont les plus actives. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a moins de place pour le sentimental. Puis au fur et à mesure que les personnages avancent, je veux dire, en saison 3, tout le monde est en crise existentielle. Tout le monde est en recherche de soi. Puis je veux dire... Recherche de soi quand tu
surtout
vis 80 ans, c'est déjà rochant. Fait qu'imagine quand tu vis comme
ça. Ben, tu sais, comme mettons Nandor, il est en recherche de sens, parce que je pense que là, le poids des années commence à se faire sentir.
Il est dépressif à ce stade-là. Là.
Ouais, ben c'est ça. Puis t'as Nadja qui cherche une solution.
Elle veut se réaliser, en fait.
Ben oui, c'est ça. Mais Nandor, il cherche une solution, puis il n'en trouve pas. Fait qu'il essaie plein d'affaires, avec, genre, justement, trouver l'amour, essayer de devenir un humain, puis finalement, essayer de faire dodo. Puis t'as Laszlo, t'as Colin qui cherche ses origines, parce que, dans le fond, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est. Nadja qui essaie de se trouver un rôle aussi. Puis
ouais,
je pense
qu'elle veut se réaliser professionnellement, guillemets.
Ben, c'est
là.
Ça, tu sais, elle veut
une opportunité, puis là, elle se dit, ah, je suis peut-être à la hauteur, tu sais.
Ben, c'est ça, tu sais, puis Laszlo, tu dirais que c'est quoi sa crise existentielle dans celle-là?
Parce qu'on le sait pas. C'est parce qu'on le sait pas tant qu'on n'a pas vu l'épisode final. Parce qu'on comprend... En fait, quand on comprend que le buzz des vampires d'énergie, c'est de se désagréger après 100 ans, de mourir,
ouais,
on comprend que Laszlo, sa quête depuis qu'il a trouvé l'information, c'est-à-dire épisode 2, c'est de faire passer du bon temps à Colin.
Ben, c'est
mais
ça.
On le sait pas jusqu'à puis temps qu'on arrive
c'est,
là.
C'est quelque chose de nouveau quand même pour Laszlo, parce qu'à part rendre Nadja heureuse,
ouais,
il n'était pas vraiment... Ben, il y avait son ami aussi, le voisin.
Le voisin, ça, c'était cute.
C'est les quelques fois qu'on voyait le côté profond de Laszlo. Comme, tu sais, il a l'air superficiel et au-dessus de lui. Et quand tu vois qu'il y a un attachement avec des humains comme le... ou n'importe qui d'autre, là, comme le voisin ou le village, où est-ce qu'il va se cacher.
Oui, tout le monde
au village. Il en prend soin, puis il veut juste les rendre heureux.
Puis en fait, rendre Nadja heureuse, peut-être pas tant... que ça non plus, en ce sens que saison 1, il a quand même tué son lover et on apprend qu'il retue ce gars-là over et over again.
Il explique qu'il le suit parce qu'à chaque fois que ce gars-là se pointe, Nadja est déprimée pendant des semaines et des mois. À chaque fois qu'il se pointe, puis quand il meurt, elle est comme...
Elle revient comme...
Elle revient elle-même. Fait qu'il est comme ce fucker-là. Il est toujours en train de te rendre triste. Je vais pas prendre ça, t'es ma reine. Puis j'ai comme, oh, OK.
Il l'a quand même...
Ouais, mais je veux dire, c'est ça, là, ça se...
C'est quand même du contrôle, mais bon, c'est romantique, OK?
Dans non, c'est pas romantique, mais c'est que tu peux pas le voir. Tu sais, c'est parce que, tu sais, comme...
Du point de vue à Nadja, elle a trouvé ça romantique parce que... Elle comprend ce point de vue-là parce qu'elle aurait fait la même chose.
Mais c'est que les humains sont déshumanisés pour eux autres, tu sais, dans le sens que comme c'est de la viande, c'est de la nourriture, puis c'est des moins que rien, c'est des mortels, tu sais. Fait qu'il y a une notion quand même là-dedans de, ben, vu que, tu sais, ça n'a pas de valeur, cette vie-là, tu sais, ces vies-là n'ont pas de valeur, tu sais. Ce qui est intéressant parce que Guillermo, tu sais, je pense que sa crise existentielle, ben, lui, il l'a depuis le début. Puis c'est la saison, je trouve, où il a shiné, la saison 3. Il était, tu sais, je veux dire, il a toujours été drôle, il a toujours été. Mais là, il était compétent. On le voyait, il était plus wise que les autres. Il avait tout le temps comme 2-3 coups d'avance. Puis comme.
Ça, c'est une chose qu'on voit depuis la saison 1 quand même un peu. Parce que quand on regarde Guillermo au début, on pense comme, ah, le petit pouf souffle qui se laisse pencher ses pieds tout le temps, puis qui se laisse contrôler. Mais pour vrai, il est très calculateur depuis le début.
Mm-hmm.
Parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, des fois qu'on croit un peu naïf, après ça, il y a un bout avec lui seul, avec la caméra, qui fait comme, ah ouais, je le savais, mais si je fais ça, il va avoir ça comme résultat.
Ouais.
Le fait que, à la saison 3, il fait, je les ai laissés croire qu'ils m'ont hypnotisé, mais la réalité, c'est que l'hypnose vampirique, ça me fait vraiment plus rien. C'est fantastique. Mais, tu sais, on parlait tantôt de l'usage du familier pour les vampires, puis outre être la connexion avec l'extérieur, c'est aussi quand même le gars qui fait les affaires que les vampires peuvent pas faire parce que le soleil.
Mm-hmm.
Puis aussi parce qu'ils savent pas se gérer. Là, on le voit quand Guillermo s'en va, c'est dans saison 2, là, je pense, qu'il démissionne. Puis je veux dire, ça prend 2 semaines, puis ils ont plus rien à se mettre sur le dos. Il y a des corps partout. Le sang poisseux est sur tous les planchers.
Juste quand il l'emprisonne. Puis qu'il sort, il monte à quel point il est pas emprisonné finalement. La cage est pleine de trous, il peut sortir. Puis qu'il va faire le ménage, puis qu'il revient après.
Puis qu'ils mangent parce qu'ils leur donnent pas de la bonne bouffe, là.
Oui.
Mais depuis saison 1, ils montent parce que je pense que c'est dans le premier ou deuxième épisode quand Nandor est comme pas fin avec Guillermo, comme toujours. Puis Guillermo fait juste réaliser en fermant les rideaux qu'il pourrait juste laisser un rideau entre-ouvert.
Ah, oui.
Mais ça, c'est dans l'épisode 1 qui fait
ça? Dans saison 1, puis c'est ça qui fait que le... Voyons, on voit en fait que ça peut mettre en danger le Baron d'une certaine façon, là.
Ouais, aussi.
Parce que le soleil. Ouais. Ah oui, mais ils ont comme fait un genre de foreshadowing parce que je pense qu'il y a comme une planche qui s'en va.
Oui.
Mais c'est pas
dans la même pièce.
Le baron meurt parce que Guillermo arrive, il ouvre la porte tout grand, puis le baron qui était complètement drogué à cause du sang.
Mais dans le premier... Quand le Baron arrive, puis qu'il est dans son cercueil...
Puis
je pense aussi que... C'est parce qu'au début, c'est que c'était comme... Il veut pas, puis vu qu'il... Tu sais, il sait pas, fait qu'il veut pas, mais il met tout le temps les vampires en danger sans le vouloir. Mais là, maintenant qu'il y a plus de contrôle là-dessus, c'est là qu'il a l'air hot.
Ouais, il devient leur bodyguard, puis il l'utilise pour de vrai. La finale de la saison 2, quand il arrive dans le théâtre... puis qui se bat. Guillermo. Même chose, c'est saison 3 aussi, quand il se bat souvent, puis il est super bon. Et c'est une des choses que j'aime, parce que Guillermo, c'est il est souvent minimisé comme personnage, puis il se fait souvent rire de lui par les autres vampires, mais pas sur son physique, c'est sur le fait que c'est un humain.
Ouais, effectivement.
Puis il oublie souvent qu'il pourrait toutes les tuer en un claquement de doigts. Mais on parle jamais de sa taille, on parle jamais de...
Mais
de
du fait qu'il y a...
De tout ça.
Ouais.
Puis quand il commence à être badass, il fait des choses genre sauter dans les conduits d'aération pour se sauver de quelque part. All of nowhere, il est super badass, il sait se battre, mais c'est jamais... C'est comme normal, puis c'est pas une chose qu'on voit souvent avec une personne taille plus.
Mm-hmm.
Dans les séries, en fait, je me souviens pas d'avoir vraiment vu
racisé,
ça.
Racisé, hispanophone, de surcroît, tu fais
voyant. Et queer.
Et queer. Il y a un moment dans la série.
Y a-t-il fait son coming out?
Il y a un moment où, en fait, il est en train de parler de quelque chose qu'il a peut-être réalisé alors qu'il était comme tween, là, ouais. Mais il est coupé dans son discours comme il l'est souvent par les vampires.
La façon, c'est que l'acteur a beaucoup joué Guillermo comme amoureux de Nandor.
Ouais.
Mais c'est une chose que j'aime aussi le côté queer de l'émission, c'est que c'est tout du non-dit, c'est juste normal, c'est juste la normalité. C'est juste, c'est au début, dans le premier épisode, quand on voit le baron arriver, puis là, Nadja qui dit « Ah, oh, j'ai déjà eu une relation avec, faut pas le dire à Laszlo », puis Laszlo, il est juste comme « Ah ouais, moi aussi, j'ai déjà eu une relation avec, faut pas... » Mais on pense que c'est peut-être un one-off, car souvent, ces émissions-là, c'est ça qu'ils font. Ils font une joke, one-off, puis ils n'en parlent plus jamais.
Oui, c'est
ça. Mais ça, ça revient tout le temps.
Dans les orgies de vampires, qu'après ça, quand il y a un moment donné, ils organisent un party, ça prend des esclaves sexuels, ça prend des vierges, ça prend des enfants. Puis c'est goffé, ça n'a pas d'importance.
Oui, Nandor, quand il parle de son harem de femmes, il mentionne qu'il y a des maris aussi dans ce lot-là. C'est tout...
Ben Nandor puis Laszlo ont été ensemble aussi, oui, c'est aussi dit souvent. Puis voyons, il y a une scène aussi parce que Nadja, on jouait pas beaucoup sur le fait qu'elle avait une fluidité aussi queer là, tu sais, à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais dans la dernière saison, à un moment donné, il parle de comme que il cherche de quoi pour la flûte là, l'espèce de flûte pour hypnotiser là, je sais pas trop quoi. Ce qui est juste une excuse pour comme qu'on voit que Sire s'est sauvé, mais la conversation que Nadja a là, c'est ben là je cherche la flûte là parce que Laszlo en a besoin pour hypnotiser la petite jeune de je sais pas trop quoi là pour comme la whatever, mais pour vrai moi je suis quand même assez down avec le projet là, ça me tente là, tu sais, comme qu'on l'ajoute dans notre groupe puis tout ça, mais finalement ça se dévie sur autre chose, mais mm-hmm. Fait que là j'étais comme OK, fait qu'ils ont vraiment juste installé que tout le monde est vraiment très queer là, tu sais,
tout le monde est fluide, puis à un moment donné c'est ça, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont découvert des affaires sur eux-mêmes. Je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est instauré comme n'étant pas aussi nécessairement quelque chose à revendiquer, mais juste quelque chose à expérimenter. La raison principale pour laquelle il y a beaucoup de revendications queer, ça reste parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, puis qui sont contre pour des raisons qui me dépassent. Mais la raison pour laquelle tu as besoin de revendiquer quelque chose en vie, souvent, c'est juste parce que c'est pas intégré par des gens qui n'ont pas fait l'expérience d'eux. C'est toujours plus facile, mettons, je trouve, là, dans ce que j'ai vécu, mettons, d'avoir parlé à des gens qui ne se considèrent pas comme queer, mais qui ont eu des expériences. C'est plus facile de parler de ta vie intime à tous les niveaux parce qu'ils ont l'expérience de ce qui s'est passé. Puis, je trouve ça intéressant qu'on parle de queerness en termes de « j'ai expérimenté des affaires, j'ai découvert ça à propos de moi » et c'est ça.
Ouais.
On continue la vie.
Puis, tu sais, je parle avec du monde aussi qui sont comme, ben, à l'âge que je suis rendue, où je suis rendue dans ma vie, je peux m'avouer certaines choses que je n'expérimenterai pas parce que je suis en couple monogame, puis ça arrivera pas. Exact. Mais je peux aujourd'hui m'affirmer que whatever. Puis cette personne-là, peut-être dans d'autres circonstances, dans un autre contexte, aurait peut-être pu dire ces choses-là plus jeune. Puis vivez-vous pas.
L'aurait peut-être réalisé plus jeune parce qu'on était.
Ça.
Ça m'a pris du temps de réaliser moi, parce que à chaque fois j'avais comme un crush sur une personnalité féminine, j'étais juste comme ah, mais c'est toi l'exception ou je fais juste comme la trouver belle, mais c'est normal, tout le monde pense comme ça. Là, là, là. C'est juste, OK, ça commence à faire beaucoup d'exceptions.
Ben, en fait, moi, je me rappelle très, 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 très bien, moi, à 5 ans, puis j'étais comme, lui, je le trouve beau, je vais me marier avec. Puis là, mettons, une personne, genre, tu sais, comme, s'identifiant femme, tu sais, que j'étais comme, ou assignée femme, mettons, à cet âge-là, tu sais, mais c'est comme, cette personne-là que j'étais comme, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie que cette personne-là me trouve nice. Puis, genre, je pense qu'il faudrait qu'on devienne des amis, genre vraiment fort. Mm-hmm. Parce que j'avais pas le langage pour exprimer ces choses-là, parce que c'était même pas dit. Tu sais, ça n'existait pas.
Ah, mon Dieu, j'ai vécu exactement la même chose. Puis, je venais d'un milieu judéo-chrétien, ça se pouvait pas, là, tu sais.
Puis, ben, c'est ça.
Fait que pour moi, c'est même pas une option, tu sais. Mais que ça soit dans le spectre des possibles, c'est intéressant. Puis j'ai l'impression, pour revenir à la série quand même, j'ai l'impression que...
Je voulais faire un lien aussi. Ouais. Vas-y, je vais faire le lien après.
En fait, c'est pas long. J'ai juste l'impression que, dans le fond, le fait que ça soit des êtres surnaturels, imaginaires, ça peut aussi peut-être... éternel, ça peut aussi faire réaliser à des gens qui écoutent la série de « Hey, moi, j'ai pas 1000 ans.
Ouais.
Moi, j'ai pas toute la vie. »
Effectivement. Je comprends ce que tu veux dire. Non seulement t'as pas toute la vie, mais aussi c'est que ces gens-là qui sont nés il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 200 ans, il y a 80 ans, il y a 2 ans, whatever. Tu sais, comme à un moment donné, quand tu donnes des droits puis que tu donnes...
De la liberté.
La liberté. Tu sais, c'est comme... Ces gens-là ont de la misère à faire fonctionner un email, mais ils comprennent que, genre, frencher un gars, quand t'es une personne s'identifie en homme, ça, on s'en calisse.
Ça montre aussi qu'il n'y avait pas les mêmes tabous à une autre époque.
Ben oui, peut-être.
Il y a ça aussi, puis comme l'histoire a été écrite par des hommes si blancs, straight, fait que des fois... On oublie qu'il y a des choses qui n'étaient pas autant tabou, qui n'étaient pas vues de la même manière.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que c'était un peu le lien que je voulais faire avant qu'on parte, parce que le temps file. Là, on aurait pu en parler encore pendant 4 heures, là, pour vrai. Là,
on va faire 3 épisodes.
Puis c'est que, justement, je trouve que c'est une critique que j'entends un peu moins, mais que j'entendais beaucoup il y a 3 ans. Il y a des queers partout, il y a des personnes partout, genre, on les voit, comme ils sont tout le temps à TV. Puis pourquoi vous en mettez? Puis je suis comme... C'est parce que pour vrai, là, je sais pas dans quel univers toi tu vis, mais moi, dans mon univers, là, c'est partout. Oui. Genre, pas à la télé, là. Dans ma vie, c'est partout. La diversité sexuelle et de genre, elle est partout autour de moi. Fait que, tu sais, c'est comme cette réalité-là que tu dis, oh non, mais c'est parce que là, ils nous imposent une réalité. C'est comme, c'est parce que tu n'es pas au courant de ces réalités-là. Ouais. Parce que tu ne traînes pas avec les gens. Tu sais, c'est comme si on arrivait puis on avait une série, genre, où on était comme, mais là, je sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de ces sujets-là. C'est pas intéressant. Mais c'est comme, mais c'est normal que tu connaisses pas ça parce que tu ne vis pas chaque expérience, tu sais, humaine, tu sais.
Dernier point très rapide, une chose que les personnes non queer, qui n'y a pas nécessairement réalisé rapidement que c'était très queer, What We Do in the Shadows, mais que nous, on l'a comme vu tout de suite. C'est la même chose pour Our Flag Means Death. C'est le thème de la famille trouvée, Chosen Family.
Ouais.
C'est toutes des séries où est-ce que c'est du monde qui se sont formés leur propre famille puis qui sont ensemble. Et c'est, excusez, mais moi, c'est comme les choses les plus importantes dans ma vie, c'est ma Chosen Family. Mm-hmm. Là. Donc.
Puis c'est ça, on s'entend que. Justement, si on veut être proportionnel aussi socialement à c'est quoi la réalité de la société dans laquelle on vit, s'il n'y a aucune personne queer jamais, ben c'est pas réaliste. Je m'excuse bien, mais mémoire vive, il y avait comme genre 120 personnages. S'il n'y a pas un personnage queer là-dedans, ben c'est pas crédible. Mm-hmm. Je suis bien désolée.
Ben c'est ça aussi l'affaire, c'est statistiquement impossible.
Impossible, c'est ça. Il y a une notion statistique qui se peut juste pas. Fait que, voilà.
Avant de nous quitter, parce qu'il reste vraiment peu de temps, la saison 4, je sais que Marie-Ève, tu l'as débutée.
Oui, j'avais un ami américain chez moi qui a pu me faire écouter les 4 premiers épisodes sur Hulu.
Ah, OK. Puis on va se débrouiller, mais on va se revoir pour parler d'autres séries. Mais toi, tu le sais un peu ce qui s'en vient. Moi, je sais rien de ce qui s'en vient. Isa, c'est quoi tes espérances pour la saison 4?
C'est sûr que là, on nous laisse sur beaucoup de trucs non résolus, beaucoup de genre de cliffhangers, de plein d'affaires.
Les gens sont partis.
Les gens sont partis, d'autres sont restés. Colin est vivant.
Colin est vivant.
Et là, tout le monde va avoir à dealer avec... En fait, moi, j'ai hâte aux explications quand tous ces gens-là vont se retrouver.
Genre, comment Nadja va réagir que Laszlo n'était pas là? Comment est-ce que Guillermo va réagir au fait que...
Je ne sais pas où ils vont nous rattraper non plus, parce que la grande caractéristique de What We Do in the Shadows, c'est quand même de commencer chaque épisode, ou presque, avec « on va vous introduire à une nouvelle affaire du lore ». Mm-hmm. Et c'est là qu'on vous lance dans l'épisode. On apprend beaucoup de choses comme ça. C'est bien écrit, hein? Follement bien. Puis, je ne sais pas si on les voit juste après que ça soit arrivé, les incidents du dernier épisode de saison 3, si on les revoit 2 ans plus tard, si qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est. Fait que moi, j'ai juste hâte de savoir où est-ce que ça commence. J'ai pas d'attente. À date, j'ai pas eu d'attente, puis j'ai pas été déçue. Fait que j'essaie d'en avoir le moins possible. Mais rien qui peut me laisser présager où est-ce que ça s'en va. Mais éventuellement, tout le monde va se retrouver, puis il y a des gens qui vont devoir avoir des sérieuses conversations.
Ben écoute, moi j'ai vu qu'il était casté jusqu'en 2024, fait qu'il reste au moins deux autres saisons après celle qui est diffusée. Je ne suis pas tannée. Puis à coup de 10 épisodes à la fois, je sais pas si je vais me tanner vite. Fait que tant que les autres sont pas tannés, je vais en prendre. Puis on va se retrouver dans quelques mois probablement, ou peut-être l'année prochaine, pour parler de la saison 4. Puis là, on va peut-être aller plus en profondeur sur des anecdotes puis des péripéties. Mais c'était, comme je disais, l'épisode où on mettait la table sur ce qu'on avait à dire en général.
Là, c'était juste nous qui comme « Oh mon Dieu, on aime ça! Voici pourquoi qu'on aime ça! »
Puis j'ai plein d'autres affaires à dire. En plus, on va continuer à en parler, même si on est une tordonde. Puis on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Et là-dessus, merci beaucoup Isa! Merci beaucoup Marie! On
merci
se retrouve dans deux semaines pour d'autres Amazoneries pour notre saison d'automne. À bientôt!